Silhouette, votre rendez-vous du lundi et du mardi sur Radio Grille Ouverte 88.2. Silhouette à la rencontre de ceux qui sont habités par la passion. Silhouette, une émission proposée par Jean-Paul Pascal. Bonjour à tous, Cathy Rouverol est à la technique et mes invités aujourd'hui dans Silhouette, Louise et Michel Caron, bonjour.
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 Vous l'avez entendu pendant le générique, Silhouette, c'est l'émission des passionnés. Nous sommes à la 21e saison et je pose toujours la même question depuis 21 ans à mes invités. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, Louise et Michel, et pourquoi est-ce que j'ai bien eu l'idée de vous inviter aujourd'hui, Louise?
Ce qui me passionne dans la vie, c'est la vie elle-même.
Alors c'est quand même aussi un peu c'est la vie, c'est la réalité de la vie, mais c'est aussi un peu la vie rêvée dans le théâtre.
La vie, c'est l'ensemble de tout ça.
Oui, le théâtre, ça fait partie de la vie.
Bien sûr, le théâtre, c'est la vie.
Michel?
Oui, bien, puisque bon, Louise a donné un peu le cadre général, on va recentrer un peu, effectivement. Bon, une de nos passions, c'est le théâtre, et pour être un peu plus précis, je dirais bon, l'art théâtral, c'est le théâtre et toutes les formes artistiques qui tournent autour, l'écriture, la lumière, le son, etc. Donc un peu un pôle de concentration de toute une série d'activités artistiques.
Depuis quelques années, vous vivez cette passion à Anduze dans le cadre d'un atelier et puis d'une compagnie. Alors un tout petit mot, on développera un peu plus pendant l'émission, mais un tout petit mot quand même pour présenter cet atelier et cette compagnie.
L'atelier, c'est un atelier de formation à l'art du comédien, en commençant par la formation de base. Et puis, pour ceux qui veulent progresser, on peut y rester plusieurs années et apprendre de plus en plus de choses pour aller vers l'interprétation, qui est finalement le but du théâtre, l'interpréter devant un public.
Mais est-ce que le métier de comédien, même quand on est comédien amateur, est-ce qu'il y a un jour où on peut se dire « ça y est, j'ai fini, maintenant je sais tout, je n'ai plus besoin de me former ».
Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on n'a plus besoin de se former. En fait, c'est un entraînement, c'est comme les sportifs. On n'arrête jamais de s'entraîner et on n'a jamais terminé d'apprendre. Il arrive de plus en plus de techniques, par exemple. Donc, il faut continuer à se former. Et les jeunes comédiens ont besoin toute leur vie. Et les vieux comédiens, comme nous aussi.
Il y a toujours de nouvelles voies à explorer.
Toujours. C'est une exploration permanente.
Alors, j'aime bien remonter à l'origine des passions des invités de cette émission et retrouver en quelque sorte la scène primitive. Alors, rassurez-vous, il n'y a pas de divan café dans le studio. Mais attention quand même, tout ce que vous pouvez dire est susceptible d'être enregistré. Vous vous souvenez l'un et l'autre de votre première émotion théâtrale ou peut-être plus généralement votre première émotion de spectateur,
Michel? Ma première émotion théâtrale, effectivement, il faut différencier deux choses, l'émotion de spectateur et l'émotion de la mise en pratique. Alors l'émotion de spectateur, mes émotions de spectateur n'ont tout d'abord pas été théâtrales. Disons que, puisqu'il faut effectivement remonter un peu à ce que l'on a fait dans sa jeunesse. Bon, j'habitais dans un quartier où ce n'était pas, un quartier populaire parisien, où ce n'était pas dans les habitudes d'aller au théâtre. Donc, j'étais dans un milieu où on sortait, mais on allait relativement peu au théâtre. Et vraiment, ma première grande émotion théâtrale, j'étais déjà intéressé par le texte théâtral quand j'étais lycéen, par exemple, mais effectivement. J'avais assisté à très peu de représentations. Ma première grande émotion, ça a été une sortie, non pas scolaire, mais organisée par le lycée, qui se passait d'un théâtre parisien, qui s'appelait à l'époque le Théâtre Sarah Bernhardt, qui s'appelle maintenant le Théâtre de la Ville. Et c'était Lorenzaccio de Musset.
C'était un bon début.
C'était un bon début. En fait, je connaissais déjà très bien. Bon, j'avais lu tout le théâtre classique et j'ai découvert au travers de Lorenzaccio ce qu'était la liberté dans le théâtre. C'est-à-dire tout ce que pouvait ouvrir par rapport au théâtre classique, le théâtre romantique. Et effectivement, c'est là que j'ai vraiment découvert que c'était un univers qui était à peu près infini.
Ouais. Louise, vous êtes dans une situation comparable?
Oui, oui et non. En fait, mes parents, eux, adoraient l'opérette. Et on m'a emmené très jeune voir de l'opérette, l'Auberge du Cheval Blanc, ce genre de spectacle.
Ouais. C'est un genre qui a été très un peu méprisé pendant quelque temps, et on a l'impression que maintenant il revient un peu au goût du jour.
Oui, il revient au goût du jour. Disons que c'était beau à voir, mais ça n'a pas suscité chez moi la passion du théâtre. Ce qui a suscité chez moi la passion du théâtre, c'est Coriolan de Shakespeare, mis en scène par Gabriel Garand, et je devais avoir 14 ans.
Oui, c'est vraiment là votre émotion. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur déclenchant?
Je pense que oui.
Oui, tout est parti de là. Hein,
vous avez... Oui, tout est parti de là.
Comme Claudel derrière le pilier de Notre-Dame.
Peut-être.
Alors, vous présentez tout à l'heure mon histoire de scène primitive et de divan, mais quand même, est-ce qu'il y a pas un lien très étroit entre théâtre et psychanalyse, ne serait-ce que parce que bon, dans les écrits de Freud, le théâtre est extrêmement présent dans les écrits fondateurs.
Alors, pour moi, les personnages de théâtre n'ont pas de psychologie. Le théâtre, c'est l'action d'abord. Donc, quand on travaille un personnage de théâtre, on ne l'aborde pas par sa psychologie. On l'aborde par qu'est-ce qu'il fait et quelles sont ses relations avec les autres qui vont déterminer les actes et par conséquent ce qui l'a amené à faire les actes. Mais on ne démarre jamais par la psychologie. Quant à la psychanalyse, moi, j'y crois pas.
Vous partagez cette opinion, Michel?
Oui, j'ai aussi une certaine distanciation, distanciation théâtrale, mais aussi distanciation par rapport à la psychanalyse. Bon, si on pouvait faire un lien quelque part, c'est qu'il est évident que dans la pratique théâtrale, ce qu'on peut appeler avec, de façon très, très, très générale, l'inconscient, bon, joue effectivement un rôle important, puisque il y a une part d'inconscient dans le fait de pouvoir rentrer dans la peau d'un personnage, le fait de pouvoir laisser vivre ce personnage, lui laisser prendre toutes ses dimensions.
Ouais. Alors, est-ce que ça n'est pas justement un peu dangereux parfois de laisser le personnage prendre toute sa dimension et peut-être interférer sur la vie du comédien?
Bah, ça pourrait être dangereux. Je pense que ça peut l'être au niveau de la formation si la formation du comédien est mal encadrée, c'est-à-dire en particulier pour des jeunes apprentis comédiens, vouloir les pousser dans des voies justement trop psychologiques et vers des choses qui seraient mal maîtrisées. Bon, ensuite, au niveau du comédien ayant déjà une petite expérience, bah, je dirais c'est son boulot de savoir maîtriser ces situations.
De savoir passer au-dessus de ça. Ouais. Je me tourne vers Louise. Vous avez commencé encore adolescente, je crois, par des stages au théâtre de la commune d'Aubervilliers. Alors, nous sommes à la fin des années 60. Hein, c'est une période d'ébullition pour un théâtre en pleine mutation. La mutation a commencé depuis quand même déjà une bonne vingtaine d'années. Alors, un mot peut-être sur le TCA. Et puis surtout, comment est-ce qu'on vit un mouvement comme celui-ci quand on a 18 ans? Est-ce qu'on adhère spontanément? Est-ce qu'on cherche à comprendre? Est-ce qu'on est un peu perdu?
Quand on a vécu cette période, on l'a vécu sans savoir que c'était le théâtre de la décentralisation. Pour moi, j'avais pas conscience qu'il y avait eu un théâtre avant la décentralisation. Alors, je ne juge pas de ce que la décentralisation a fait ou n'a pas fait. En tout cas, le théâtre de la commune d'Aubervilliers, ça a été une expérience assez formidable dans la mesure où dans ces communes dites de banlieue, il n'y avait rien d'un point de vue culturel, théâtral, comme les Parisiens avaient les grands théâtres, en banlieue, il n'y avait rien. Et soudain, cette ébullition théâtrale s'est mise aussi à vivre, et à vivre avec les lycées environnants, avec les lycéens, avec les gens des communes qui les ont beaucoup soutenus. Donc c'était une expérience nouvelle, pour ma part, j'ai eu envie d'entrer là-dedans. Et j'aurais même aimé entrer plus profondément et me lancer dans une professionnalisation dès mes 18 ans. Mais bon.
Oui, parce que vous en parlez un peu comme d'une entrée en religion.
Ah non. Si. Enfin, c'est pas une entrée en religion. Disons que c'est une. C'est un mouvement en avant, c'est comme être tiré par un cordon ombilical. Ouais. Voilà, on se relie à quelque chose. Et pour moi, le théâtre de la commune, ça a d'abord été ça. Ça a été de m'offrir des spectacles, ça a été d'offrir à la lycéenne que j'étais des possibilités de m'immerger dans ce monde du spectacle qui était pas, enfin, qui était pas celui des gens des banlieues non plus à cette époque-là.
Enfin, ça correspond quand même, il y a une certaine résonance.
Ah oui, il y a une résonance, c'est clair.
Michel, vous avez été touché un peu plus tard par la grâce, hein. Je crois qu'il vous a fallu attendre 1982, hein. Vous êtes à cette époque-là un vieux de 35 ans, pour participer à un stage au Théâtre de l'Est parisien, donc vous avez eu une vie avant la scène, vous.
Oui, j'ai eu une vie avant. Ceci dit, ma rencontre avec le Théâtre de l'Est parisien est antérieure, à cette aventure. Bon, j'ai parlé tout à l'heure de Lorenzaccio. Je dirais effectivement le deuxième événement, c'est lorsque jeune adulte, je suis venu habiter à proximité du Théâtre de l'Est parisien. Bon, j'avais à l'époque une culture théâtrale, disons, quasi inexistante. Et bon, c'est vraiment là que j'ai découvert le théâtre dans toutes ses dimensions. Et je dis toujours, le Théâtre de l'Est parisien, c'est un théâtre où on allait comme on va au cinéma.
Oui.
Et effectivement, pour tous les gens d'un quartier, donc du nord-est de Paris, c'était une possibilité qui ne s'était pas ouverte jusque-là. D'ailleurs, c'est quand qu'on y allait comme on va au cinéma. En fait, c'était une salle de cinéma désaffectée qui avait été transformée en théâtre où on faisait toutes les sortes de théâtres, où on faisait du musical, du cinéma, enfin, effectivement, un peu de toutes les formes artistiques avec très peu de moyens et où il y a des créations majeures qui ont eu lieu. Bon, c'est ce tout petit théâtre de quartier qui a permis à beaucoup, entre autres, de découvrir Bertolt Brecht.
Oui, voilà, ça a été le départ quand même de la découverte d'un monde qui jusqu'à cette époque-là était complètement fermé à toute une classe sociale. Hein.
Oui, puisqu'en fait, on était à une époque où le théâtre, c'était le théâtre privé et bon, qui était cher et difficilement accessible. Fallait être d'un certain milieu pour aller dans ces théâtres. C'était la Comédie française qui n'était pas ce qu'est la Comédie française aujourd'hui, donc qui était quand même quelque chose de très poussiéreux.
Oui, qui a changé à
180 degrés. Et effectivement, ce sont quelques expériences comme celle-ci, juste une bonne partie, curieusement, sur le nord-est de la région parisienne, hein, dans ces quartiers, ces banlieues ouvrières, qui ont permis ce tournant et cette ouverture vers des formes plus actuelles de théâtre.
Ouais. En 1984, vous décidez, alors tous les deux, je ne sais pas si vous étiez ensemble à l'époque déjà, donc de suivre une formation un peu atypique, hein, c'est au TEM, je ne sais pas s'il faut dire TEM ou TEM, le Théâtre École de Montreuil, c'est une formation qui va se poursuivre jusqu'en 1990, c'est donc du sérieux. Alors, je parlais de formation atypique, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous définir la façon de travailler de ce Théâtre École de Montreuil? Alors,
le Théâtre École de Montreuil, c'était au théâtre ce que sont les arts et métiers aux techniques. Le Théâtre École de Montreuil permettait à des jeunes salariés ou des gens qui avaient une profession dans la journée de se former en cours du soir au théâtre et à toutes les formes de théâtre, en passant aussi par la technique, par les costumes, par la mise en scène. Alors, il y avait à la tête de ce théâtre quelqu'un qui je veux rendre hommage, qui est Jean Guérin, qui était un élève de Jean Villard, et un Brechtien convaincu, quelqu'un qui avait une foi infinie dans le théâtre, on en revient à la foi, ouais. Et qui pensait que on pouvait aider des gens qui n'avaient pas eu la possibilité de suivre la voie royale pour entrer au conservatoire, et bien qu'au travers de ça, ils pouvaient quand même avoir et asseoir une solide expérience de la formation de comédien. Et beaucoup de gens aujourd'hui connus sont passés par le TEM. Monsieur Schiaretti, qui est à Villeurbanne, ouais, entre autres.
Très bien. Je vous propose maintenant aux auditeurs d'explorer un peu votre discothèque, puisque c'est la tradition dans cette émission. Alors, nous avons été trahis par la technique pour le premier extrait que vous nous proposiez, qui était un extrait de l'opéra de Katsu. Mais nous allons nous rattraper avec le règlement de Louis-Ferdinand Céline. Vous êtes tenu de vous expliquer sur le choix. Qui s'explique? Je crois que c'est Michel qui a choisi. Hein.
Oui, j'ai choisi. Pour toute une série de raisons. D'abord, bon, je suis un lecteur de Céline, je dirais, depuis l'enfance. Et un relecteur permanent de Céline. Aussi parce que je pense que pour les gens de théâtre, Céline a une place toute particulière. En fait, Céline n'a écrit que deux pièces, dont une, je pense, n'a jamais été montée, l'autre très peu montée. Par contre, son écriture, a toujours fasciné les gens de théâtre. Ce qu'il fait, effectivement, qu'il y a eu de multiples adaptations de ses textes romanesques au théâtre. Bon, et que quelqu'un, finalement, comme Fabrice Lucchini, a fait une bonne partie de son succès ces dernières années sur une lecture magistrale des textes de Céline. Donc, quelque part, je pense que c'est un des rêves de beaucoup de comédiens, c'est de jouer ou de dire du Céline, parce que c'est une écriture qui est totalement vivante et qui quelque part, rencontre ce qu'aiment les gens qui aiment le théâtre.
Ouais, mais nous allons l'expérimenter tout de suite.
Je te trouverai charogne, hein, Vilassouère. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du chaud. Tu verras, c'est une belle assistance. Tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais la question qui me tracasse en te regardant, est-ce que tu seras plus dégueulasse, mort que vivant? Si tu vas repousser la vermine, plus d'enterrement. Si tu restes en rate sur la pile, j'aurai des crosses avec mimine au trou cimetière des bons enfants. Mais vois si ton torpence et son petit Léo. Voici Clémentine, le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sainte carte, fais la porte, au malfrat écrase que le vent emporte. Tourbillons et soucis. Voilà. C'est fini.
Radio Grille Ouverte 88.2, vous écoutez Silhouette. Aujourd'hui, dans Silhouette, Louise et Michel Caron, de la compagnie T2A Anduze, donc comédien, metteur en scène, auteur aussi. C'est une facette de votre talent que nous explorerons un peu plus tard dans l'émission. Revenons-en à votre formation donc au Théâtre École de Montreuil. Vous allez compléter cette formation par un travail sur la voix et aussi sur la Commedia dell'arte. Alors, on dit que la Commedia dell'arte, c'est un peu la mère de toutes les formes de théâtre, une sorte de somme qui contiendrait tout en germe. Est-ce que vous confirmez ou c'est une idée reçue?
Il y a beaucoup de choses dans la Commedia dell'arte qui est utilisée dans le théâtre. La Commedia dell'arte, contrairement à ce que l'on pense généralement, ce n'est pas que de l'improvisation. Ce sont des gens extrêmement préparés. Les comédiens italiens qui faisaient de la Commedia dell'arte travaillaient sur des canevas. Donc les canevas existaient, mais pour le reste, tout le reste était de saisir la balle au bond et d'être capable justement de rebondir. Et la Commedia dell'arte, c'est l'art de rebondir. C'est aussi une sorte de théâtre qui rejoint le théâtre des petits. C'est-à-dire que on montre dans la Commedia dell'arte des gens qui ont toujours le ventre creux, ceux qui arrachent les ailes des mouches pour les gober, ouais. Parce que finalement, c'est des gens qui ont toujours faim et qui se rebellent, le valet contre le maître. Mais finalement, c'est aussi des méchants, Il y a pas un jugement très manichéen. Il y a aussi des méchants. C'est pas uniquement des bons, ceux qu'on feint qui sont bons. Ils peuvent aussi être extrêmement sournois et voler leur maître. Voilà.
Et le théâtre arrive quand même à nous les rendre sympathiques.
Ces
personnages de méchants, là, comme vous dites.
Bien sûr, c'est tout l'art du théâtre.
Alors, une nouvelle période va s'ouvrir pour vous dans les années 90 avec un important travail sur l'improvisation. Plus précisément sur l'improvisation collective et sur l'écriture dramatique qu'elle peut susciter. Alors, ce sont des notions qui sont un peu obscures pour le profane que je suis. J'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus, Michel.
Nous allons revenir au théâtre de l'Est-Parisien, en fait. On y est revenu durant toute notre vie parisienne. Effectivement, il y a eu le désir de lancer une expérience. Qu'est-ce que c'est que cette écriture collective? Pour vous dire un peu comment fonctionnait cette structure. D'abord, nous étions une cinquantaine de stagiaires à travailler en permanence ensemble. Alors, quand je dis en permanence, ça veut dire que nous y étions deux jours fixes par semaine, mais qu'en fait, une bonne partie du temps, on vivait dans le théâtre. Nous avions la chance à l'époque, en fait, le théâtre de l'Est parisien qui avait déménagé se trouvait juste derrière chez nous, donc les deux étaient un petit peu confondus. Et l'idée au départ, je pense qu'il y a toujours une idée chez certaines personnes de théâtre d'utiliser un peu ce que l'on peut récolter auprès des gens de la rue pour essayer de susciter du matériel pour l'écriture théâtrale. Donc au départ, ça partait un peu de cette idée. Et donc le principe a été, au départ, ça fonctionnait comme des ateliers, mais enfin un énorme atelier où il y avait 5 ou 6 encadrants qui fonctionnaient en parallèle, avec des gens qui faisaient un travail d'improvisation ou un travail théâtral, mais pas au travers de textes préexistants. Et après, on disait, on s'arrête, on écrit. Et tout le monde, effectivement, écrivait ce qu'il avait un peu ressenti à l'intérieur du travail. Après, on mettait tout en commun. Et petit à petit, un texte s'élaborait, une écriture collective qui a ensuite été reprise et qui a abouti à une pièce qui a été jouée, que l'on a jouée à 50. Au théâtre de l'Est parisien, pièce qui a posteriori quand même tenait pas mal la route.
Voilà. Travailler à 50 pour une compagnie théâtrale, on ne peut qu'être dans l'expérimentation. Il y a quand même des contraintes techniques, matérielles, financières qui rendent ce genre de choses quasi impossibles.
Alors quasi impossible si les comédiens étaient payés.
Voilà.
Et c'est surtout que les moyens du théâtre de l'Est parisien étaient des bons moyens. Il y avait encore quelques subventions à l'époque, même si Guy Rétoré avait refusé de prendre la direction du théâtre de la Colline, parce que ça ne lui convenait pas. Il avait quand même réussi à maintenir pendant quelques années des subventions qui lui ont permis aussi de faire cette expérience. Avec tous les moyens techniques du thème, on a eu de la pluie sur la scène, on a eu les Svoboda, toutes les techniques d'éclairage possibles, et surtout une qualité d'encadrement qu'il faut souligner. Enfin, il y avait Georges Verlaire, Jacques Adjani, ce qui n'est pas rien.
Ouais. De grands personnages contemporains. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est à cette époque que vous découvrez la lecture théâtralisée, mais en tout cas, vous la pratiquez d'abondance et vous continuez, d'ailleurs, je crois, souvent dans des lieux un peu insolites. La question que je me posais, et que du coup je vous pose aussi, quel est l'intérêt de lire un texte qui a été écrit pour être joué? Est-ce que c'est une gageure? Est-ce que c'est au contraire une simplification du travail du comédien?
Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est de permettre l'accès à des textes théâtraux hors la scène. Parce que même de nos jours, et on le remarque depuis qu'on est installé dans le Gard, les gens vont pas tellement au théâtre. Le théâtre, c'est pas un genre majeur d'activité pour la population. Et finalement, les textes théâtraux, surtout les textes contemporains, sont pas d'abord tellement faciles pour aller les voir au théâtre. Faut prendre des places. Et puis, les voir jouer, faut avoir fait la démarche. Tandis que la lecture, si on va vers les gens avec un texte, ils vont l'écouter et finalement on va les piéger, on va les harponner par rapport à ça sur de petits extraits et leur donner envie d'aller plus loin. Nous, on a beaucoup axé sur le théâtre contemporain dans la mesure où il n'est pas entaché de tout ce qui est scolaire. Bon, si on travaille sur trop de classiques, les gens se disent « Ah, tout ça, on l'a vu à l'école, c'est très ennuyeux », même si c'est pas vrai, même s'ils se rendent compte que c'est pas vrai.
Oui, c'est peut-être la façon dont c'est enseigné aussi. Enfin, je veux pas jeter la pierre aux profs de lettres, mais bon, c'est vrai que la façon dont les textes théâtraux classiques ou romantiques sont enseignés à l'école, bon, ça n'est peut-être pas vraiment fait pour communiquer l'amour du théâtre.
C'est sûr. Et ces textes contemporains, justement, ne sont pas entachés de cette emprise scolaire. Et là, on peut partir sur des voies inconnues avec des textes sans ponctuation, des choses qui permettent à l'interprète de lire dans une totale liberté et de donner du sens aux mots. Et donc d'amener des gens, au travers de l'écoute, à lire... peut-être après, des choses qu'ils n'auraient pas lues spontanément.
Oui. Vous avez pratiqué en particulier la lecture en appartement, je crois, hein, ou en tout cas des petites formes d'appartement. Alors c'est un peu la vision utopique de tous ces gens qui ont fait le théâtre moderne entre les années 40 et les années 60, non pas d'amener les gens au théâtre, mais d'amener le théâtre chez les gens,
Michel. Oui, effectivement. Le théâtre, on va encore revenir au TEP, hein, parce qu'effectivement, c'est avec le TEP que nous avons pratiqué pour la première fois ce qu'on appelle ça des petites formes, cette petite forme qui est le théâtre en appartement. Donc au départ, il s'agissait bien de théâtre et pas de lecture en appartement, donc vraiment de textes joués. Donc on a joué effectivement chez des spectateurs du TEP qui invitaient un certain nombre de personnes à venir jouer, donc et puis les gens allaient chercher leur place au théâtre, et on leur disait, vous allez chez un tel, à telle adresse, il va y avoir un spectacle. Et ensuite, on avait pris cette habitude, on y avait trouvé beaucoup de plaisir, et dans plusieurs cadres, effectivement, on a repris cette pratique qui a quelque chose d'assez extraordinaire, parce que généralement, le déroulement, c'est qu'on joue chez quelqu'un, donc on joue pratiquement dans sa salle à manger, sur ses genoux. On est à quelques dizaines de centimètres des spectateurs. Donc on joue la pièce, quand c'est fini, on se retrouve, on mange ensemble, on discute, donc c'est quelque chose qui est très convivial. Et ça n'est pas évident à cause de cette proximité, on n'a pas du tout la protection qui est la scène, parce que la scène est quand même une grande protection pour le comédien.
Oui, la scène, l'éclairage, en fait.
L'éclairage dans les yeux, c'est quand même quelque chose de très agréable. Mais effectivement, par contre, il y a un contact direct avec les gens à qui l'on joue, qui est extraordinaire. C'est typiquement une forme de théâtre. On va aller à la rencontre de gens qui n'ont jamais été ou qui n'iront jamais au théâtre. Ouais.
Je le fais, croyez-moi, comme vous. Je rêvais de l'homme qui viendrait me chercher. Que lui dirais-je au premier rendez-vous? S'il est vraiment charmant et s'il est riche, si son col même en semaine est blanc, s'il parle bien, s'il s'habille chez un tailleur chic, moi, je lui dirais non. Je ne serai pas intimidé, je saurai lui résister. Bien sûr, le ciel sera plein d'étoiles, bien sûr, le navire il sera là en voile, mais je connais la chanson. Je lui dis est venu le premier soupirant. Il était tout à fait comme il faut. Le deuxième avait trois navires marchands et le dernier lui m'avait dans la peau. Comme ils étaient charmants et tous très riches, que leur col même en semaine était blanc, qu'ils parlaient bien, qu'ils s'habillaient chez un tailleur chic, moi, je leur ai dit non. Et je n'étais pas intimidée, je savais leur résister. Bien sûr, le ciel était plein d'étoiles, et bien sûr, le navire hissait la grand voile. Mais je connais la chanson. On ne peut pas se mettre au lit sans façon. Se donner pour un oui, pour un non. Non. Et puis, un beau jour, par un grand soleil fou, est venu celui que j'attendais. Sitôt dans ma chambre, il a mis le verrou, et je ne savais plus où j'en étais. Il n'était pas charmant, pas du tout riche, et son col même en semaine était sale. Ses vêtements mal coupés étaient vraiment banals. Mais je n'ai pas dit non. J'étais tout à fait intimidée, j'ai pas su lui résister. Bien sûr, le ciel était plein d'étoiles, bien sûr, le navire a vissé ses voiles, et j'ai perdu la raison. On a
Alors nous allons revenir, revenons en théâtre. Donc en 2007, vous quittez la région parisienne pour poser vos valises à Anduze. Alors bon, peut-être pour des raisons personnelles que nous n'avons aucune raison d'évoquer aussi, ou bien c'était pour la poursuite d'un projet professionnel, pour voir quelque chose de nouveau, l'attrait du soleil du midi, l'accent.
C'était pour l'attrait du soleil du midi et l'accent en plus.
Dès 2008, donc à Anduze, vous créez le T2A, qui est le théâtre atelier d'Anduze. Mais je crois que ça n'était quand même pas votre première expérience en matière de formation, puisque vous aviez déjà sévi en Bretagne, je crois. Hein.
Oui, on avait fait des week-ends d'ateliers en Bretagne pour des associations qui voulaient développer auprès des Bretons cette activité théâtrale qui ne semblait pas trouver en Bretagne intérieure. Ouais, ouais. Alors on faisait venir deux Parisiens pour animer des week-ends. On l'a fait avec beaucoup de plaisir pendant 2-3 ans. Et puis, quand on est arrivé à Anduze, on avait davantage de temps à nous. Alors on s'est dit que il fallait utiliser ce temps pour communiquer ce que l'on avait appris. Ouais, et voilà.
Alors donc très rapidement, vous avez une vingtaine d'élèves hein, dans l'atelier, dès la première année, je crois. Alors, que viennent chercher des élèves dans une formation de théâtre amateur? Est-ce que tout le monde arrive avec la même motivation? Voilà, Louise lève les bras au ciel. Michel, peut-être vous avez une explication?
Une explication, non, parce qu'en fait...
Plusieurs explications.
C'est une question que l'on se pose tous les jours. En fait, chaque individu est un cas d'espèce. Bon, il y a quand même des grandes catégories. Les plus jeunes, donc ceux qui ont une vingtaine d'années, viennent effectivement rechercher une formation, vraiment une formation théâtrale, ont envie de jouer. Et effectivement, ce sont ceux qui ressemblent plus à ce que l'on était lorsque nous-mêmes étions jeunes et qu'on a découvert cette activité. Bon, il y a un certain nombre de gens qui viennent bien, qu'on refuse de se placer sur ce créneau, qui viennent quand même chercher une certaine forme de thérapie. C'est des gens qui ont des difficultés à s'exprimer en public et qui espèrent que... Enfin, c'est pas espéré, puisqu'en fait, ça ne peut que effectivement que faciliter cette expression, mais qui espèrent faciliter leur expression orale de cette façon. Et puis, bon, après, il y a effectivement toute une série de démarches différentes. Bon, je veux dire, quand même, une chose nous a frappé lorsqu'on a commencé à animer ces ateliers, c'est que beaucoup de gens qui suivaient des ateliers théâtre étaient des gens qui n'allaient pas au théâtre.
Oui.
Donc, je pense que ça a orienté aussi notre activité en nous disant, il ne suffit pas d'enseigner des techniques ou une pratique, il faut aussi enseigner le goût du théâtre. Donner une certaine formation sur ce qu'est le théâtre, sur son histoire, sur ses évolutions, et puis engager les gens. Bon, on a quand même la chance d'avoir une scène nationale à Alès, donc encourager les gens à aller au théâtre.
Oui. Enfin, bon, moi, ça me paraît fondamental, oui, le fait de pouvoir partager l'expérience des autres aussi, non pas pour refaire ce que font les autres, mais pour voir effectivement des choses très diversifiées. Et c'est vrai que dans la programmation du Cratère, nous avons la chance d'avoir des spectacles quand même très divers et la plupart du temps de très très grande qualité.
Oui. Oui, c'est pour les gens qui sont dans l'atelier exemplaire de pouvoir aller voir les spectacles du Cratère. Aucun des autres spectacles qu'ils peuvent voir dans les salles communales n'a de rapport avec ce qui se fait au Cratère. Donc on les encourage, mais pour les encourager, il faut leur donner semer des graines. Et semer des graines, c'est leur parler des auteurs. C'est situer les auteurs dans la société, c'est reprendre les mises en scène et savoir pourquoi est-ce que la mise en scène a été anachronique, pourquoi est-ce que l'on monte Courteline, enfin c'est un mauvais exemple parce que c'était pas monté en contemporain, c'était en époque, mais pourquoi on montrait Tchekhov habillé en costume d'aujourd'hui. Voilà, et essayer de comprendre et de resituer le théâtre dans la société.
Voilà, donc je suppose que vous avez vu Amour Noir la semaine dernière.
Tout à fait.
sur votre site internet, vous reprenez une citation d'Antoine Vitesse qui déclarait, alors un site internet qui est remarquablement bien fait, soit dit en passant, donc Antoine Vitesse qui déclarait qu'il souhaitait un théâtre élitiste pour tous. Alors c'est une jolie formule, mais est-ce que ce n'est pas quand même aussi un vœu pieux?
Bon, bien sûr, bon, c'est une projection idéale. Ouais. Mais en fait, je pense que quand Vitesse parle d'un théâtre élitiste, il parle d'un théâtre exigeant pour lui-même et exigeant quand même pour les personnes auxquelles il s'adresse. C'est un théâtre que je dirais ne vise pas en dessous de la ceinture.
Ouais.
Donc qui cherche plutôt à faire progresser, à entre guillemets remonter le niveau. Plutôt qu'un théâtre qui tend à baisser le niveau. Et quand il dit pour tous, c'est effectivement aussi quelque part un vœu. En fait, il faudrait pour tous ceux qui peuvent en avoir envie.
Oui. Alors, le comédien, j'allais presque dire par construction, c'est celui qui a envie d'accrocher la lumière. C'est peut-être celui qui, paradoxalement, se cache derrière un personnage pour être mieux vu. Comment est-ce qu'on concilie cet état de choses avec la pratique collective qui est la vôtre? Est-ce que ça fait justement partie, ça, des difficultés de la formation, d'intégrer des comédiens amateurs dans une pratique collective, dans un groupe?
Non, c'est pas une difficulté à partir du moment où, quand ils acceptent de faire cette pratique, ils savent qu'elle a des règles. Ils ne débouchent pas sur cette pratique-là du jour au lendemain. Ils débouchent sur cette pratique après avoir pratiqué des ateliers. Donc, cette frotter aux autres pendant 2-3 ans. Ouais. Et quand ils arrivent à un spectacle, ils savent que de toute façon, un spectacle, c'est une construction collective. On n'est pas tout seul, et heureusement, parce que le comédien a besoin de l'autre. C'est quelque chose qui se construit. C'est comme si un joueur de ping-pong jouait tout seul. Ça n'a pas de sens. Les répliques sont là et on s'appuie sur l'autre. Donc c'est rassurant d'avoir des autres autour de soi pour occuper l'espace, pour être là au bon moment, pour apporter le bon accessoire, pour l'avoir préparé à l'avance dans les coulisses. On sait qu'on peut s'appuyer sur les autres. Et ça fait aussi partie de la formation. Et quand ils arrivent au spectacle, ils savent que ça, c'est rassurant.
Ouais, ouais. Le fait de pouvoir s'appuyer sur les autres et qu'on joue au choral en quelque sorte.
Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas de jeu individuel. Enfin, chez nous, on joue pas les vedettes. Voilà. Chacun a son rôle. Chacun a sa part. Il n'y a pas de rôle secondaire dans la mesure où le théâtre est collectif.
Mais ça demande quand même de la part des formateurs, donc de votre part à vous, une attention extrême à la personnalité de chacun, finalement, que chacun soit dans la, j'allais dire, dans la bonne case. L'image est peut-être pas très bonne, mais que chacun se sente, en tout cas, bien à sa place.
Oui, mais ça fait partie du travail de l'enseignement, de la pédagogie. Savoir expliquer aux gens et les aider à trouver leur place au sein d'un groupe. Je pense que la pédagogie, c'est ça.
Ouais. Alors, en pratique, comment ça fonctionne? Vos ateliers viennent de démarrer, hein, puisque nous sommes à la rentrée. Quel est le programme que vous proposez à vos apprentis comédiens, Michel?
Alors, nos ateliers fonctionnent d'une façon qui est relativement simple, puisque l'on fonctionne par trimestre. Donc on part avec un groupe de personnes qui généralement on n'a pas de niveau, c'est-à-dire on mélange totalement les gens qui ont déjà une expérience et les gens qui viennent là pour la première fois. On s'est aperçu que c'est très positif. Bon, on va de toute façon c'est exactement moi j'assimile souvent la pratique du comédien à la pratique du boxeur. Faut sauter à la corde, faut faire du sac de sable, donc effectivement, il y a beaucoup de training, d'échauffement. C'est quelque chose qui est quand même très physique. Et puis, peu à peu arrive le texte. Et le texte, c'est lui qui va être l'armature du travail pendant un trimestre. Donc, on choisit généralement, pour un trimestre, de jouer, quand je dis le texte, c'est un bout de texte d'un auteur. Donc, on travaille sur ce texte avec des techniques et avec une façon de travailler qui correspond à l'auteur qui a été choisi. Et effectivement, c'est ce à quoi on faisait référence aussi tout à l'heure. On va travailler en même temps sur pourquoi cet auteur, que signifie l'écriture qu'il a fait dans telle période, etc., etc. Et donc, on va mélanger travail technique et travail sur le texte pendant un trimestre. Mon autre but, en fait, notre but est de formation, pas de représentation. Donc, à la fin du trimestre, on va se faire un visionnage entre nous du travail qui a été fait. On pratique au minimum la critique en cours de travail. Par contre, on pourra se faire un petit débriefing quand tout sera terminé. Et puis, le trimestre suivant, on passera généralement à quelque chose de très, très différent. Et ce qu'on a commencé à faire cette année, on parlait du cratère tout à l'heure, c'est de faire une certaine adéquation entre les choix que l'on fait et la programmation du cratère. Donc tu peux peut-être en dire un mot.
Oui, cette année, on a donc rencontré Emmanuel Baron au cratère qui s'occupe des relations avec le public.
La communication, ouais.
Et on lui a proposé que l'on s'adosse en partie à deux spectacles de leur saison pour choisir les textes de l'atelier de façon à ce que il y ait davantage de passerelles entre la scène et la technique de l'atelier. Donc on a choisi pour le premier trimestre de travailler sur Rabelais. Et donc nos stagiaires iront voir le 23 ou le 24 novembre ou le 22, je ne sais plus, les Paroles gelées, donc d'une compagnie qui était venue l'année dernière présenter Tempête sous un crâne, ouais, d'après Victor Hugo. Et le deuxième trimestre sera consacré à Lorenzaccio. Là, on rejoint
les amours
de jeunesse de Michel.
Alors, dans cette formation, vous avez aussi petit à petit, comment dire, diversifié votre offre, comme disaient les commerciaux, et vous débordez maintenant sur d'autres techniques théâtrales ou annexes, enfin des ateliers d'écriture, par exemple, des choses de ce genre-là.
On a commencé dès la première année l'atelier d'écriture. C'est quelque chose qu'on aime bien faire parce que ça fait partie du spectacle, l'écriture. C'est de démystifier le texte de façon à le rendre plus accessible au jeu. Donc l'écriture, on se rend compte que les gens en plus aiment ça et que tout le monde est capable d'écrire quelque chose et que ce quelque chose peut avoir un intérêt à être vu et représenté. Donc les ateliers d'écriture, on en a fait la première année. Depuis, on n'en a pas refait parce que après c'est aussi en fonction des demandes des gens, des possibilités de salles. Enfin c'est un peu complexe. Et puis on fait cette année de la lecture à haute voix.
Voilà,
qui est aussi un travail sur le texte.
Extrêmement intéressant sur le texte. Et nous allons revenir vers votre discothèque après les paroles théâtrales, peut-être les paroles musicales. Que nous proposez-vous à présent?
Donc, on va entendre quelque chose, nous allons y revenir après, qui est en rapport avec le spectacle que nous présentons actuellement, qui est La Ménagerie de Verre. Donc, qui est une chanson de 1929. Un blues qui est interprété par Memphis Minnie et qui s'appelle Where is my good man at?
Radio Grille Ouverte 88.2, vous écoutez Silhouette et aujourd'hui dans Silhouette, je reçois Louise et Michel Caron de la compagnie T2A d'Anduze et de l'atelier du même nom. Alors parlons de la compagnie justement, elle voit le jour en 2009, donc un peu après la création des ateliers. Ça s'articule comment avec l'atelier et la compagnie? Là, c'est cloisonné, ça s'interpénètre
Bon, ça s'interpénètre dans la mesure où Michel et moi, on essaye d'intégrer des jeunes de l'atelier qui ont la capacité de jouer et qui en ont l'envie. Donc la compagnie, c'est une compagnie de statut amateur, ce qui veut dire que l'on n'est pas payé pour ce que l'on fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du professionnalisme dans le jeu. Et ça, je tiens à le souligner, puisque là, je tiens l'antenne.
Je vous laisse encore quelques minutes, profitez-en.
Donc, oui, il y a une interpénétration entre l'atelier et la compagnie. Mais les gens qui sont dans l'atelier ne joueront pas tous dans la compagnie. Et la compagnie n'a pas pour vocation d'animer l'atelier. Mm-hmm. C'est deux choses qui sont séparées.
Voilà. Et vous arrivez aussi dans la compagnie d'inviter d'autres comédiens professionnels, je
crois. Oui, c'est possible. Ouais. Après, ça dépend du casting. On travaille pas sous forme de troupe. C'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes qui jouent tous les rôles, tout le temps, tous les ans.
Ouais. Enfin, en tout cas, je crois que vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Souvent, le théâtre amateur a une image un peu négative, hein, en disant, bon, il est amateur, ce sont des gens qui font ce qu'ils peuvent. Bon, je crois qu'au contraire, et de plus en plus, avec peut-être justement la multiplication des ateliers de théâtre, hein, de plus en plus, dans le théâtre amateur, on trouve des choses de qualité vraiment de premier plan. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez le festival de théâtre amateur de Barjac, donc qui rassemble un certain nombre d'Européennes. Bon, enfin, pour le fréquenter depuis quelques années, je me rends compte qu'on y la qualité est vraiment au rendez-vous et on y trouve des choses qui même en qualité, en ce qui me concerne, surpassent un certain nombre de spectacles professionnels que j'ai pu voir par ailleurs. Donc, il faut vraiment, je crois, sortir de l'esprit du public que théâtre amateur, c'est théâtre de moindre qualité. Hein.
Je suis d'accord.
Voilà, je pense que vous serez d'accord. Votre toute dernière création, c'est la Ménagerie de verre de Tennessee Williams, qui a été reprise d'ailleurs, je crois, l'année dernière par le théâtre de la commune d'Aubervilliers. Alors, je ne sais pas s'il faut y voir une simple coïncidence. Alors, quelques mots très rapides, puisqu'il nous reste peu de temps, sur l'argument de la pièce. Alors, elle n'a pas forcément une dimension sociale, mais elle se situe quand même en pleine crise de 29 aux États-Unis, qui est un peu aussi devenue une période de référence pour notre époque, la crise de 29. Et on nous ressort tous les matins sur les radios et les télés que nous sommes en train de revivre la crise de 29.
Oui, bien, à ce niveau-là, je pense qu'effectivement, elle a quand même, effectivement, une résonance sociale, enfin, dans le sens le plus noble du terme. Effectivement, c'est une pièce qui se passe dans la crise de 29 et qui parle, effectivement, à la fois de la guerre, mais indirectement, puisqu'en fait, c'est la vie d'une famille, mais ce qui se passe derrière, c'est la guerre qui vient. Et en fait, le narrateur, C'est une pièce qui est construite sur un mode cinématographique, hein, sur des flashbacks. Donc le narrateur, on peut penser qu'il parle pendant la guerre et il évoque des épisodes de sa vie familiale qui sont passés précédemment. Donc il y a cette situation et il y a aussi comme situation les problèmes de la jeunesse. Bon, c'est une pièce qui se passe à Saint-Louis dans le Missouri, qui était un peu le lieu de regroupement de toutes les misères, à la fois du nord et du sud des États-Unis dans cette période, et où les jeunes gens avaient beaucoup de mal à se situer, à trouver ce qu'ils allaient faire de leur vie. Et c'est aussi ce problème de la jeunesse, cette difficulté à avoir un idéal dans un monde qui à ce moment n'a d'autre idéal que la guerre, qui est sous-jacent derrière cette pièce.
Et dans ce sens, c'est vraiment très contemporain. Alors peut-être si on remplace la guerre par l'argent, par exemple, on est vraiment exactement en résonance, encore une fois, avec l'actualité.
Hein. Oui, c'est je pense que c'est ce qui remarque tous les spectateurs qui ont vu la pièce jusqu'ici.
Hein. Comment est-ce que le metteur en scène, donc c'est vous cette fois-ci, Michel, puisque de temps vous alternez avec parfois même des mises en scène à quatre mains, si j'ose dire. Comment est-ce que le metteur en scène pénètre dans l'univers d'un auteur et dans une époque qui est quand même éloignée de près de 80 ans.
Ah, disons que d'abord, bon, c'est un univers qui ne m'est pas totalement étranger. Bon, j'aime beaucoup Tennessee Williams à la fois pour ses œuvres théâtrales et pour toutes les illustrations cinématographiques qui en ont été données. Et effectivement, c'est à la fois une période qui m'intéresse, un lieu géographique qui m'intéresse, et effectivement ma volonté était de beaucoup illustrer ce contexte, d'où effectivement le morceau que l'on a entendu tout à l'heure. C'est le milieu où on passe du blues dans les dancing, où finalement la guerre de sécession n'est pas si loin. Et la mère de Faye vit encore dans l'Amérique sudiste qu'elle a connue dans sa jeunesse. Effectivement, c'est une culture et un contexte qui m'intéressait. Donc finalement, à ce niveau-là, c'était assez naturel de monter la pièce.
Voilà, la compagnie tourne aussi encore Don Juan Elvire 1699 qui est une de vos œuvres, Louise. Alors vous avez 20 secondes pour en dire un mot.
Bien.
ma question a été, est-ce qu'en 2012 il y a encore quelque chose à ajouter à cette histoire? Voilà.
Bon, je pense qu'il y aura tout au long des millénaires des choses à ajouter au mythe de Don Juan. Voilà, c'est ma conclusion.
Voilà. Alors très rapidement encore vos prochaines dates, hein, pour que j'espère que nous aurons donné envie aux auditeurs de Radio Grille Verte de venir vous voir sur scène. Donc les prochaines dates pour Don Juan Elvire ou pour la Ménagerie de Verre.
Donc Don Juan Elvire, la prochaine date c'est le 20 octobre, c'est samedi prochain à Cardet au foyer municipal. Et la Ménagerie de Verre c'est à Junas à 18h. Le 24 novembre, samedi 24 novembre à 18h à Junas.
Alors, on peut trouver toutes ces dates sur votre site internet que vous allez rappeler.
Donc,
www.
Oh, je pense qu'il suffit de faire compagnie T2A en Duse sur n'importe quel moteur de recherche et on va tomber dessus sans problème.
Encore, et encore une fois, c'est un site remarquable et très bien documenté. Merci Louise et Michel d'avoir passé ce moment avec nous.
Merci.
Merci à Cathy qui assure la technique et puis merci surtout à tous les auditeurs qui nous sont fidèles. On se retrouve lundi ou mardi prochain, toujours sur Radio Grille Verte pour un nouveau numéro de Silhouette. Au revoir à tous.